Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Bien, je pense qu'on peut commencer, hein?
Est-ce que tu peux demander à Axel de couper sa caméra?
De couper ma caméra?
Non, pour Axel.
Comment?
Il y a Axel, elle va couper sa caméra.
Ah, d'accord. Axel, est-ce que tu pourrais couper ta caméra? Voilà. Parce que ça fait des distorsions spatio-temporelles. Bien, ben nous allons commencer en prenant refuge et en développant l'esprit de l'éveil. Sage éveillé, enseignement de l'éveil et assemblée vertueuse, vous les sublimes, jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par les bénéfiques activités de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, puisse l'éveil être réalisé. Sage éveillé, enseignement de l'éveil et assemblée vertueuse, vous les sublimes, jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par la bénéfique activité de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, puisse l'éveil être réalisé. Sage éveillé, enseignement de l'éveil et assemblée vertueuse, vous les sublimes jusqu'à la purification et la perfection, accordez-nous protection. Par la bénéfique activité de générosité et des autres vertus, pour le bien de ceux qui errent, puisse l'éveil être réalisé. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libres, de la parfaite félicité libre de toute souffrance, ne jamais être séparés, et dans la grande équanimité, libre de distinctions duelles, d'attachement et d'aversion, demeurer. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libres. De la parfaite félicité libre de toute souffrance, ne jamais être séparée, et dans la grande équanimité, libre de distinctions duelles, d'attachement et d'aversion, demeurer. Puissent tous les êtres la félicité et les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et les causes de la souffrance être libre, de la parfaite félicité libre de toute souffrance, ne jamais être séparée, et dans la grande équanimité, libre de distinctions duelles, d'attachement et d'aversion, demeurer. Comme tout ce qui s'élève dans l'esprit, il y a une impulsion, tantôt une impulsion portée par la sagesse et la bienveillance, et malheureusement plus souvent par l'égocentrisme et la confusion. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout se passe dans l'esprit, tout s'élève dans l'esprit, ce que nous pensons être le monde comme une réalité extérieure est en fait notre perception de ce monde. Chaque perception est unique. Et c'est en cela que parfois il y a des problèmes, parce qu'on pense que lorsque j'explique la vérité, tout le monde devrait la comprendre, puisque c'est la vérité. Mais le problème, c'est que chacun a son histoire propre, sa façon de voir les choses, et donc il y a des accords, des mésententes. Mais si l'on peut s'ouvrir à l'autre, et passer en quelque sorte de la perception à la perspective, hein? J'utilise ces mots pour faire une petite différence. La perception, c'est comment je vois le monde. C'est-à-dire que ce monde, je le vois comme je suis. Et donc, il est en quelque sorte mon interprétation d'un processus de perception. D'accord ? Je pense parfois, à tort, que tout le monde voit le monde comme moi je le vois. Et c'est souvent une des bases de la discorde, ou en tout cas de la mésentente. Mais si je peux faire un petit pas de côté et me dire, voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Elle n'est pas absolue, elle est relative, elle dépend de mon histoire, de mes préférences, de voilà, beaucoup de choses. Je peux aussi comprendre que l'autre a une histoire tellement complètement différente. Et que donc, il serait peut-être intéressant d'écouter, de dire, voilà, raconte-moi ton histoire et je te raconterai la mienne, et que peut-être il y a des choses qui se retrouvent sur lesquelles on pourra avoir une rencontre et faire un travail en commun. C'est pas vraiment chez toi, c'est pas vraiment chez moi, c'est un entre-deux où les choses se recoupent un petit peu comme ça. Et donc, ça donne beaucoup plus de tolérance. Donc, on voit que, en fait, c'est ce que nous avons, c'est un point de vue. D'autres ont un point de vue différent, mais qu'il est possible d'avoir une sorte d'harmonie pour autant que, d'une part, on ait envie de cultiver l'harmonie, donc ça, c'est la bienveillance, et que, d'autre part, on ait suffisamment de discernement pour embrasser la perspective plutôt que s'attacher à la perception. Et donc, à partir de cela, les choses vont être beaucoup plus simples. En tout cas, on aura une meilleure base de communication et d'échange. Pourquoi je commence avec ça? Parce que tout naît de l'esprit. Dans son texte, Le joyau ornement de la libération, peut-être vous avez déjà lu ou étudié, Gampopa commence d'entrée de jeu en expliquant que aussi bien le samsara, c'est-à-dire la souffrance et le mode d'être conditionné, que le nirvana, c'est-à-dire la cessation de ce qui cause la souffrance et les fruits qu'est la souffrance, naissent de l'esprit. C'est sur la même base. Tantôt un esprit qui se connaît, ou bien un esprit qui s'ignore. Lorsque l'esprit s'ignore, il est dans la confusion, et donc l'attachement à la perception est beaucoup plus fort. Et l'idée de la perspective n'est absolument pas présente. Mais ce qui est important, c'est que ça se passe sur la même base. On va dire, je prends le mot terrain, mais il ne faut pas le solidifier. Hein, l'esprit, ce n'est pas une mode de terre. Le terrain, c'est le même terrain, c'est la même source, la même origine. Et peut-être pour illustrer ça, je pourrais prendre l'exemple de l'océan. L'esprit est profondément un océan immense et profond. Et tout ce qui s'élève, ce sont des vagues. L'apparition de ces vagues dépend de causes et de conditions, des actions, des pensées, des paroles qui créent ce mouvement, cette dynamique. Dans ce mouvement, il y a l'ignorance, mais il peut aussi s'élever la conscience, le discernement quant à la nature profonde de l'esprit. Donc, c'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'on commence toujours avec une intention pour mettre l'esprit, placer notre esprit dans une direction, on va dire, appropriée à ce que nous faisons ensemble, ce que nous allons faire ensemble. C'est-à-dire aller vers une liberté individuelle, collective, prendre soin, écouter l'autre et prendre soin de l'autre. Développer l'aspiration à être possiblement le plus utile aux autres et à soi-même. Développer ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. Et pour cela, prendre appui sur la nature fondamentale de l'esprit qui est déjà, d'ores et déjà, pleinement éveillé. Le grand maître japonais, Suzuki Roshi, disait « En cet instant même, votre esprit est déjà Bouddha. Mais il y a beaucoup de nuages dans cet espace, il y a beaucoup d'écume et de vagues, de turbulences sur cet océan. Et tout le chemin, ce n'est pas tellement construire l'éveil ou l'obtenir, mais c'est dégager ce qui fait obstacle, ce qui interdit à l'esprit de se connaître et donc de se libérer. Donc c'est un travail de libération et de désenfouissement. Donc, on va parler au cours de ces jours que l'on va passer ensemble de tout cela. On va parler de l'esprit qui est attaché et qui est perdu. On va parler de l'esprit qui se connaît progressivement et qui se libère. On va parler de l'esprit d'éveil. Pourquoi, comment on doit le développer, en quoi il est indispensable. Et puis, on va, dans la perspective du grand saut, ce qu'on appelle Mahamudra en sanskrit, comment est-ce que l'on peut faire cette découverte progressive de la nature de l'esprit. Voilà. Alors, je fais une brève introduction, mais j'aimerais que vous considériez ces sessions que nous allons passer ensemble plutôt comme, une série de dialogues. Donc, ce ne sont pas des... comment on peut dire en français, masterclass, où le prof parle pendant 2 heures et les étudiants essayent de ne pas dormir. Hein? une conférence, ouais, voilà. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un dialogue et pour ça, j'ai besoin de vous. Merci. J'ai besoin de vous parce que si vous n'êtes pas dans le mode dialogue, ça va être difficile de faire un dialogue tout seul. Ça s'appelle un monologue. J'ai pas un thème général prévu, à vrai dire. Je vais vous dire une petite blague. J'ai rencontré mon ami Kounkiab, que certains d'entre vous ici avaient. Il me dit, ah oui, c'était très très bien. On a vraiment et on a beaucoup parlé des instructions, des poèmes de Gendun Rinpoché. Et là, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je lui ai dit, mais attends, c'est ce que j'avais prévu de faire. Tu m'as piqué mon sujet. Donc j'arrive ici. On peut en reparler des chants de Gendun Rinpoché, ça fait pas de mal. D'avoir peut-être une autre discussion, une autre perspective. Mais du coup, ça m'a libéré parce que j'avais une idée préconçue. C'est pas finalement une bonne chose dans un dialogue que d'avoir une idée préconçue. On veut commencer à orienter le dialogue. Donc, je peux vous proposer des thèmes de réflexion. Et puis ensuite, voilà, vous rebondissez sur ça. Vous faites part d'une expérience ou vous faites part d'une question peut-être que vous avez ou d'un besoin d'approfondir tel ou tel point. Et puis voilà, de fil en aiguille, on va trouver le thème. Je pense qu'on pourra imprimer le programme à la fin du stage, de dire voilà, le thème a été. On aura un titre a posteriori. Voilà, donc est-ce que vous avez des choses qui vous tenaille, des questions comme ça qui vous tenaillent. Et je pose cette question aussi aux amis qui nous ont rejoints ici outre Internet, dans la réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous attendez de ce week-end?
Pouvoir se recentrer.
Ah, alors, ah
Les
oui,
cours.
pour celles et ceux qui sont dans la pièce, utilisez le micro de façon à ce que nos amis entendent.
Moi, pour ma part, c'est la première fois que je viens ici. Déjà, c'est un centre qui est magnifique, un endroit sublime. Et ça va me permettre de me recentrer, de me retrouver un petit peu moi-même, de penser à moi un peu, enfin moi entre guillemets. Mais de pouvoir me ressourcer en sortant un petit peu du travail, des zones, des conflits au travail ou même la ville, tout ça qui est perturbante. Et puis de rencontrer d'autres personnes, bien sûr, mais surtout de se recentrer, de se mettre face à soi-même.
Parfois, quand on doit sauter un obstacle, on fait un pas en arrière. On fait un pas de retrait pour prendre de l'élan. C'est un petit peu ce que l'on fait dans ces moments de retrait, retraite, retrait. C'est-à-dire que il peut apparaître aux autres que on fuit le monde, on ne veut pas être embêté, etc. Mais en fait, non, au contraire, on choisit les thèmes que l'on veut aborder, on se donne du temps pour regarder ce que dans la précipitation de la vie en général, on n'a pas le temps de regarder. Parce que les questions sont là et les réponses aussi sont là. Mais il faut se donner le temps. Et ça, je pense que le programme est bien fait parce que le matin, il y a un moment de méditation silencieuse. Il y a des moments de, comment dire, de participation à la vie commune qui seront aussi vécus comme des moments de méditation en quelque sorte, dans le sens que c'est un moment de présence, un moment d'attention, un moment de bienveillance, etc., que l'on partage. Et puis, encore en fin de soirée, on pourra avoir peut-être plus de moments de questions-réponses, etc. Et puis, toute la journée en général, c'est simplifier, ralentir, être présente, être attentive à ce qui se passe en nous, parce que les questions s'élèvent dans cet esprit et trouvent leur résolution dans cet esprit. Et courir à l'extérieur pour trouver des réponses, en fait, c'est une course éperdue. On n'arrive pas à trouver la réponse parce que, je reviens à ce que je disais au début, tout se passe davantage et en premier lieu dans l'esprit. Donc, il faut donner de l'espace à l'esprit. Et puis, j'aime bien l'idée aussi de rencontrer des gens, de faire du lien parce que pour paraphraser le maître Thich Nhat Hanh, nous entre-sommes. Nous n'existons pas de façon isolée et autonome. Nous entre-sommes. Ce réseau de l'humanité, ce réseau de tous les êtres sensibles en général, parce qu'on va parler des animaux, comme demandait Axel un jour, nos compagnons, à qui il ne faut pas jeter de bâton. La corde, seulement la corde. Merci.
Je ne sais pas si ça fonctionne.
Oui. Alors ça va être le A.
Oui.
C'est le bâton, vas-y.
Le bâton. pour répondre à ta question, qu'est-ce que je suis venue chercher ici ? Connaissant depuis déjà quelques années ta façon de faire, je ne suis pas venue avec une idée préconçue non plus, avec une idée, un besoin existentiel, une question métaphysique qui nécessite des bouquins, parce que je sais que ce que j'apprécie, c'est justement ce dialogue qui se noue entre tous, et toi qui es très proche de nos vies. Du coup, jusqu'à il y a 5 minutes, je ne savais pas ce qui m'aurait pu m'intéresser. Mais ta question me fait réfléchir et du coup, il y a 2 choses. L'une, c'est l'année dernière, bon, j'ai eu 60 ans et j'ai commencé à faire une rétrospective de ma vie et j'ai eu pas mal d'échecs dans la vie, comme beaucoup de gens, je pense. Et je me posais la question sur la vertu des échecs. Finalement, certains des échecs, pour moi, maintenant, ne le sont plus tellement. Mais est-ce qu'on peut tout transformer en vertu, je veux dire, chaque échec, je pense qu'il y a peut-être des échecs très durs, je ne sais pas, en tout cas, une thématique comme ça. Et deuxième chose, j'ai récemment rencontré des personnes qui parlent beaucoup de Amma, que tout le monde connaît, je connaissais de nom. Une personne m'a offert un bouquin qui était juste des témoignages de dévots, de personnes, donc, et là se pose la question du gourou et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre que je suis en train de lire et que j'ai emmené ici pour continuer de lire, il y a quand même des histoires terrifiantes. C'est beaucoup de gens d'Inde, etc., qui ont des vues tellement, tellement difficiles. Et ils ont trouvé une espèce de réconfort ou de grâce au contact de cette personne sans passer par un enseignement bouddhiste ou raisonné. J'ai pas de questions précises, mais je vous le mets là parce que c'est quelque chose qui me touche et qui m'interroge.
Merci. Merci. Il y a plein de questions, il y a plein de choses qui jaillissent de ce que Ati a dit. Par exemple, la réflexion pour moi autour de l'échec. Pour moi, l'échec n'existe que parce qu'il y a quelque part un espoir d'obtenir une sorte d'excellence où on a une attente. Et qu'en fait, s'il n'y a pas d'attente, peut-être que... Enfin, c'est une question que je pose. Hein, s'il n'y avait pas cette attente ou cette expectation, c'est français ça, expectation ? Non, c'est de l'anglais ça. L'attente, ça risque d'arriver, hein, parce que je parle plus en anglais qu'en français. Donc, cette attente, mais c'est vraiment le désir de... Est-ce que peut-être il ne génère pas la peur de la faillite et la peur de l'échec? Ça, c'est une réflexion peut-être qu'on peut se poser et puis on peut en reparler plus tard. Hein, je ne dis pas à trouver une réponse maintenant, je ne l'ai pas même. Mais ensuite, la chose qui vient après ça, c'est une idée qui est très présente dans la société, la performance. Être à la hauteur. La hauteur de quoi? La hauteur de qui? Par rapport à quoi? Une hauteur, c'est toujours par rapport à une autre hauteur. Hein? Trungpa Rinpoche disait, les souris sont petites parce que les éléphants sont grands. Et les éléphants sont grands parce que les souris sont petites. Donc, la faillite, lorsque l'on pense à ce que l'on devrait obtenir, ce que l'on désire, ce que l'on pense que la société, l'entourage souhaite que l'on accomplisse, et c'est très présent dans le chemin spirituel. C'est-à-dire que quand est-ce que j'arrive à l'éveil? Ma moyenne par rapport à l'éveil, est-ce que je suis bien dans les marques? Des centaines de fois, j'ai traduit des entretiens avec Gendun Rinpoche, pour Gendun Rinpoche, de questions qui posaient, de gens qui posaient des questions sensiblement autour d'eux. Il dit, c'est simplement de l'ambition personnelle. Là, vos questions naissent seulement de l'ambition personnelle. Et donc, voilà, autour de ça, la réflexion sur l'échec. Mais comme tu le disais, si l'on apprend quelque chose dans ce moment douloureux qu'on peut appeler un échec, eh bien on a gagné quelque chose qui est sans prix, qui est incomparable et qui est peut-être supérieur à ce que l'on avait fantasmé obtenir et qu'on a failli dans l'obtention de ce rêve. On est ramené à la réalité. Enfin, il y a plein de choses dans ça. Donc, peut-être ce qu'on va faire en général, c'est que ces questions-là, vous les notez quelque part, enfin, en tout cas celles qui vous touchent ou qui vous concernent, vous les notez quelque part parce qu'elles vont être la nourriture de demain, de nos échanges. Hein, parce que, à brûle pour point, si je pose une question, peut-être qu'on n'a pas le temps de faire la réflexion au même moment. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait... Il me semble avoir vu une main se lever, oui. Philippe, c'est toi qui voulais poser une question?
Oui, alors... Justement, moi, je voulais... donc, bonsoir à Matsoni, bonsoir à tous. Ce que j'ai trouvé déjà dans ton approche, justement, le dialogue sur le chemin, c'est justement, effectivement, on a souvent tendance à se sentir un peu tout ça de notre côté, à pratiquer, essayer de pratiquer. Et justement, la période que l'on vit est difficile. Je pense que cette notion de partage, de témoigner de ce qu'on vit, de partager ce qu'on vit, justement, peut nous aider, nous tous, justement, à se sentir aussi solidaires dans le chemin, ou même en société. Et je trouve que c'est une très bonne approche pour moi, et je pense que c'est très profitable. Voilà.
Merci, merci Philippe. Ce que j'ai vu aussi, parce que j'ai, pendant des années, dizaines d'années, traduit des entretiens particuliers, j'ai vu que c'était pratiquement toujours les mêmes questions qui arrivaient dans les mêmes circonstances, et que comme les gens étaient seuls dans l'entretien avec Gendun Rinpoche, et moi j'étais l'intermédiaire, on pouvait avoir le sentiment que c'était un problème ou une difficulté extraordinaire. Et en fait, c'était très commun. Ça fait partie de l'humanité, de ses difficultés. Et vers la fin de sa vie, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient le rencontrer et il n'y avait pas assez de temps pour faire des entretiens individuels. Donc, on a commencé à faire des entretiens en groupe. C'est-à-dire que, je disais, voilà, si vous avez des questions qui sont d'ordre général et que vous ne seriez pas gêné de poser en public, venez dans un groupe. Maintenant, si vous avez des choses très privées, particulières, qui seraient difficiles de partager en public, on peut toujours trouver un espace pour des questions individuelles. Donc, les groupes ont été grandissants et ont beaucoup de succès. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'une personne levait la main, posait une question. Rinpoche répondait. Une deuxième personne posait une question qui était sensiblement la même, une variation sur le thème avec juste... un environnement, des noms, des couleurs qui avaient un petit peu changé. Rinpoche répondait pratiquement la même chose. La troisième personne dit, voilà, c'est bon, vous avez répondu à ma question. Et en fait, il y a énormément de questions qui avaient à voir avec l'humanité. Alors, en relation avec la pratique spirituelle, le chemin, mais aussi en relation avec la vie et les choix de vie, et puis les faillites, les succès, etc. Les succès, il y avait moins de questions, c'est intéressant d'ailleurs. Je n'ai pas trop souvenir de gens qui venaient en disant là, ah, je suis super content, j'ai réussi tout ce que je voulais. Et puis, pour revenir sur ce que disait Philippe, le partage, je pense qu'effectivement, on sent que nous faisons partie d'une humanité, que nous traversons des difficultés qui sont semblables, similaires. Le Bouddha avait une liste très simple, c'était les souffrances autour de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Voilà, en gros, ça rentre dans ces quatre dossiers à peu près tout ce que l'on va vivre, quoi.
Alors, bon, quand tu as posé un peu les, comment on dit, les bases de l'esprit qui se connaît ou l'esprit qui s'ignore, tout ça, de Mahamudra, ça réveille chez moi toujours ce terme Mahamudra comme une invitation à explorer ou une espèce de goût pour l'inconnu. Pour cette chose qui peut pas se dire, mais qui s'expérimente et puis qui arrive furtivement, peut-être, ou voilà. Et pour moi, il y a cette espèce d'attrait, je sais pas, c'est plus qu'un attrait parce que c'est vraiment une question fondamentale, en fait, qui me travaille. Et je vois à quel point dans mon quotidien, je suis dans des espèces de pensées récurrentes, je fais tous mes scénarios les uns après les autres, que j'entretiens les fables intérieures vraiment d'une façon très très régulière et je m'en rends pas compte. Donc c'est vraiment là où l'attention elle pêche toujours au quotidien parce que on oublie que on est présent, on devrait être présent. Et ça, c'est vraiment une thématique qui, maintenant, me semble vraiment centrale. C'est que arrêter de me laisser entraîner. J'ai failli faire un accident sur la route, là, en venant, parce qu'il y avait un lac dans mon dos, dans le rétroviseur, et j'ai voulu, pour une raison ou une autre, j'ai tourné mon regard vers le lac et j'étais pas sur la route. Donc, j'ai réalisé à quel point j'étais pas présente, en fait. Que j'avais pas cette conscience de est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là? Qu'est-ce que je suis en train de raconter à l'intérieur? Qu'est-ce qui se raconte? Et pourquoi tu ressasses toujours ça? Et c'est vraiment au-delà du pourquoi, il faut trouver le moyen de revenir vers cette essence. Et voilà, je m'arrête là.
Je crois que c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Alors, je crois que c'est un petit peu ce qu'il disait à propos de Ama. Ama qui est finalement, bon, je sais pas si vous êtes familier avec cette femme, qui est simplement un cœur aimant, ouvert et spacieux, et qui embrasse les gens littéralement. C'est un peu comme Chenrezig, en fait. C'est un cœur aimant. Chenrezig ayant changé de genre assez souvent, parce qu'il a commencé en étant masculin, puis l'empereur de Chine a décidé qu'il serait féminin. Donc en fait, aux États-Unis, il y a toute une communauté trans qui a décidé que Chenrezig était leur divinité parce qu'elle avait changé de genre. Elle avait changé de genre. Bon, bref, je m'égare. C'est comme un espace, mais c'est important parce que c'est un espace qui est non discriminant, non discriminé, qui accueille. Et c'est tellement rare dans la vie de tous les jours. Alors on peut trouver des maîtres, des professeurs, on peut trouver des maîtres, entre guillemets, de spiritualité, mais il y a toujours comment dire, une référence au mental, à la réflexion, à la construction d'une pensée, avec un certain nombre de lignes de conduite, etc., etc. Et là, on a simplement une femme qui vous embrasse, qui vous accepte. Et pour moi, cette femme, elle représente l'esprit de Chenrezig. Et Chenrezig, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui, celle qui regarde les êtres en souffrance et qui les accueille dans leur souffrance. C'est vraiment la compassion. Et en fait, c'est la qualité fondamentale de notre esprit. Mais nous sommes tellement préoccupé par créer des barrières autour d'un territoire qui serait moi, il y a une fracture entre le moi et l'autre, entre ce qui est moi et ce qui est l'univers, pour de nombreuses raisons. Et quelque part, on a effectivement relativement besoin parfois de faire un peu un espace, de définir ses barrières, etc. Mais ça devient une habitude. C'est pas simplement faciliter la vie, ça devient une habitude, presque une sorte d'identité de se protéger. Et là on a quelqu'un qui s'ouvre. Et quelque part, pour parler du Mahamudra, alors on peut aborder le Mahamudra conceptuellement, il y a de nombreux livres, on peut les lire, on peut entendre de nombreux mots, mais en fait, il n'y a pas un mot qui reflète ce que c'est. Puisque par définition, c'est indicible, inconcevable. Et même les mots indicibles et inconcevables ne reflètent pas la réalité. Donc en fait, je me souviens d'une étude à un moment qu'on faisait avec Trinley Rinpoche sur le Sutra du cœur. Et donc à un moment, quelqu'un dit, mais on n'arrête pas de dire, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais de quoi parle-t-on? Et Trinley Rinpoche dit, ah mais non, non, on n'est pas en train de parler de l'esprit là, on est en train de parler de ce que n'est pas l'esprit, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un travail de débroussaillage, de libérer le terrain de ce qui l'entrave. Et quand on a des moments comme ça où quelqu'un comme Ama ou d'autres, ou Chenrezig, entre dans notre vie, on peut sortir de l'habitude, de l'enfermement, du comment il faut se comporter, comment il faut, voilà, toute l'éducation pesante, et s'abandonner. Et s'abandonner parce que bon, c'est Ama, c'est une mère, donc enfin, la mère idéale, hein, parce que je sais qu'on a tous des mères un peu troublées parfois, mais la mère idéale ou le père idéal, c'est ça, c'est cet espace aimant et accueillant. Mais ça, il faut bien reconnaître que ça, c'est la nature de notre esprit. Nature de notre esprit, c'est cette ouverture, cet océan vaste et profond, infini, qui n'est pas du tout, comment dire, saisissable par des mots, des concepts. On ne peut pas l'attraper, il n'y a pas de poignée au Mahamudra. On ne peut pas le choper. Mais le chemin d'ouverture, il se fait par un engagement, mais un dégagement. Un engagement et un dégagement. C'est-à-dire qu'on est présent, il y a un cheminement qui est mis en place, mais il est important et secondaire le cheminement. Parce que c'est quelque chose qui nous conduit à ce qui est déjà présent, qui est la nature de notre esprit. Quand les gens me demandent d'illustrer ça, je dis, bah, c'est comme les efforts que l'on fait pour entrer dans la pièce où nous nous trouvons déjà. À chaque fois qu'on essaye d'entrer dans la pièce, on ouvre une porte, donc on sort. Sortant, on se rend compte qu'on n'est pas là où on voulait. Et donc, en fait, le fait de sortir par cette porte qui ne nous mène pas où on est, puisqu'on y est déjà, on prend conscience de là où on se trouve. Et donc, toute la pratique du Mahamudra, ça va être ça. Alors, notre habitude qui est très mentale, rationnelle, etc., c'est notre culture, notre société, nous conduit à ça. L'éducation fait que on veut rationaliser ça. Hein? Alors, on le découpe, on utilise les mots, les synonymes, on apprend tout ça, et on est quelqu'un qui peut réciter par cœur le menu et expliquer comment tous les repas ont été faits et qui, en même temps, n'ayant jamais mangé, meurt de faim. Maintenant, si on ne se pose pas ces quelques questions, au travers de l'étude et de la réflexion, on ne peut pas se mettre en disposition. Si je suis dans la pièce mais que je l'ignore, je vais rester à ignorer que je suis dans la pièce. Et donc il est important quelque part peut-être que j'essaye de sortir pour essayer de rentrer, pour me rendre compte que j'étais dedans. Je ne sais pas si vous suivez ma dérive. Donc c'est à la fois simple et compliqué. Souvent les enseignements du Mahamudra, donc le grand saut ou la grande perfection, nous disent... Le problème avec ces enseignements, c'est leur simplicité. Trop proche pour le voir, trop simple pour y croire. Parce que ça nous échappe, ça nous échappe. Et ça ne peut se faire, on ne peut arriver à cette ouverture que dans le moment de détente. Mais c'est compliqué d'arriver à la détente. Parce que quand on nous dit bah, il faut vous détendre, c'est comme quelqu'un qui a une crampe. On dit mais détends-toi et j'essaye. On essaye de se détendre. Et en fait, on se tend encore plus. Si on ne fait rien, on est dans le relâchement et l'abandon, négatif, aveugle, et donc on reste en l'état. Rien ne se change. Rien ne s'améliore. Donc, il y a quand même un chemin dans ce qu'on appelle la voie du Mahamudra, au travers d'abord du calme mental, puis de la vision pénétrante, progressivement des expériences premières se font, et progressivement on voit où et comment s'abandonner. Mais il y a tout un travail préliminaire quand même qui est nécessaire. Et je crois que ça commence très simplement avec une réflexion sur qu'est-ce qui nous lie. Donc, je vais vous livrer ça pour demain. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous attache? Qu'est-ce qui fait que notre esprit ne se reconnaît pas? Quand je venais ici ce matin, il y a une chanson de Francis Cabrel qui est passée à la radio, qui était un enseignement incroyable du Bouddha, avec l'accent d'Agen, de Moncrabeau, je ne sais pas exactement où il habite par là. Cette chanson s'appelle Les prisonniers de l'inutile. Si vous connaissez cette chanson. Le texte, en gros, c'est Nous sommes prisonniers de l'inutile, liés par ce qui nous attache, et nous souffrons en notre cœur de quelque chose comme d'une tâche qui se cache. Prisonniers de l'inutile. Nous sommes dans une fuite éperdue pour rechercher ce que nous ne pouvons pas nommer, mais qui serait de l'ordre de la satisfaction, du bonheur, de la sécurité, etc. D'aucuns vont le chercher dans le matériel en ayant plus, plus, plus. D'autres vont le chercher dans le spirituel en ayant plus, plus, plus. Plus d'initiation, plus de mantras, plus de mots, plus de concepts, plus de cordons autour du cou après les initiations, etc., etc. C'est la même chose finalement. C'est une fuite en avant, une recherche extérieure. Et Gyudin Rinpoché nous disait toujours, vous avez les yeux tournés vers l'extérieur, tournez-les vers l'intérieur, regardez votre esprit. Mais c'est pas simple de faire ça parce que nos yeux sont tournés vers l'extérieur effectivement. Hein? On a tellement cultivé cette habitude que ça a formé notre corps. Avoir des yeux tournés à l'extérieur. Donc, que ce soit d'une façon spirituelle ou d'une façon matérielle, on fait une spiritualité matérielle, matérialiste. On cherche l'éveil comme un objet perdu qui serait là-bas. Pour reprendre un petit peu ce que tu disais, à ne retrouver cette essence, retrouver. Mais pour retrouver quelque chose, il est nécessaire qu'à un certain moment, on l'eût perdu. Or, c'est notre esprit, nous ne sommes jamais séparés. Nous l'avons perdu de vue. Et nous le perdons de vue à chaque fois que nous regardons à l'extérieur. Donc, il faut retourner le regard. C'est pour ça que le mot bouddhiste est une invention des Anglais, hein, parce que. Il a trouvé un mot pour ça, mais les Tibétains disent Nangpa, Nangpecheu, la science de l'intérieur, le regard tourné vers l'intérieur. Contrairement à ceux qui vont rechercher à l'extérieur, alors peut-être au travers d'un dieu extérieur ou peut-être au travers du matérialisme effréné, ce qui est plutôt le cas de notre société. Et le mot pratique, Philippe disait la pratique, mais ça aussi c'est une erreur de traduction, une traduction maladroite. En tibétain, une pratique, on peut dire plusieurs choses. On peut dire nyamlen. Nyamlen, ça veut dire en faire l'expérience. Ce qu'on traduit généralement par méditer en tibétain, c'est gom. Gom veut dire se familiariser, s'habituer. Vous vous rendez compte la différence qu'il y a dans l'esprit quand on dit je dois faire ma pratique? Et j'essaye d'en faire l'expérience. C'est deux mondes complètement différents. Je fais ma pratique, on est déjà projeté vers l'extérieur. On doit ouvrir le texte, sortir le mala et lire ce texte et essayer d'avoir la visualisation. On est complètement projeté. En faire l'expérience, c'est pas des. Quand on fait l'expérience d'un bon plat, on va pas se gaver parce qu'après on vomit. Hein, ce qu'ils en appellent la crise de foi. La crise de foi du dharma. Hein, on prend une petite bouchée et on la savoure. Et puis on essaye de voir ce qui compose la sauce, les éléments, les épices, etc. Jusqu'à ce que l'on ait une certitude de la composition. Et c'est une expérience intime et personnelle et que, bien sûr, on ne pourra pas partager. Parce que si quelqu'un vous demande quelle est la saveur de ce plat que vous avez mangé qu'il n'a pas connu, ben vous êtes vraiment désarmé parce qu'il n'y a pas vraiment il y a des mots, mais enfin, c'est pas vraiment le transfert de l'expérience ne se fait pas. Donc, pour revenir à Francis Cabrel et sa chanson, j'espère que ça ne vous choque pas que je rentre Francis Cabrel dans la discussion, non? Parce que, en fait, le monde rentre dans notre discussion. Hein, nous sommes dans ce monde. Il s'est passé à la radio quand je roulais. Nous sommes prisonniers de l'inutile. Qu'est-ce que c'est que l'inutile? Toute cette recherche à l'extérieur. Des choses que nous impose. Il y a la chanson d'Alain Souchon aussi. On nous pousse à consommer, etc. Moi, je trouve beaucoup d'enseignements hein, dans les chansons populaires. Hein. En lisant entre les lignes ou en ayant une interprétation un petit peu différente. Prisonnier de l'inutile. C'est terrible. Parce que ce que l'on pense être la source de notre succès versus faillite, c'est inutile. C'est inutile parce que, quelque part, ça nous éloigne de l'essence qui est déjà en le cœur de notre esprit, en pensant le chercher à l'extérieur. Un des poèmes de Rinpoché dit « Ne t'aventure pas dans la jungle pour chercher l'éléphant qui est dans le parc à côté de la maison. Hein? » Il y avait une publicité comme ça d'un gars qui soudain a envie de manger des pâtes et qui part à l'extérieur et sa femme l'appelle en disant « On a les mêmes à la maison !» Et c'est vraiment ça, cette idée, Mahamudra et Panzani. Et c'est pas désacraliser le mot Mahamudra, il est important, mais il est aussi très relatif. Parce que ce qui est important, c'est le goût qu'on en a. C'est pas simplement le mot sur les lèvres, c'est la saveur sur la langue. C'est ça qui est important. Et quand quelqu'un va rencontre Ama, par exemple, il y a une espèce de ferveur avec tous ces gens qui viennent vers elle. Et puis, il y a ce moment de simplicité où on se sent accueilli. Et là, et du coup, toute cette construction de faillite, de peur, d'espoir, etc., dans cet instant, c'est même pas qu'elle elle s'effondre, c'est qu'elle est vue dans son inutilité. La méprise que l'on avait à son propos, le fait de penser qu'elle a une sorte de réalité, est exposée comme étant fausse. Et là, il y a une grande joie parce qu'il y a une grande liberté. Le poids est levé dans la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de poids. J'ai vu quelque chose apparaître sur l'écran. Est-ce que c'est Myriam?
Un message.
Ah, c'est un message sur le chat.
Bonsoir, Lama. C'est juste pour mettre les paroles dont tu parles.
C'est les paroles de la chanson de Cabrel.
Hein?
Les paroles de la chanson.
Je n'ai pas entendu la question.
C'est les paroles de la chanson.
Ah, que je répète?
Qu'elle a mis.
Ah, c'est sympa, merci.
La matsumis, voilà. Est-ce que tu m'entends?
Là, je t'entends, oui, vas-y.
Ok, juste bonsoir déjà. Et bonsoir. J'ai juste mis les paroles dont tu parlais, tout simplement. Et je te remercie, vraiment l'enseignement est toujours aussi porteur. Merci infiniment.
Merci, merci Myriam. Voilà, donc bon, vous trouverez facilement, allez, c'est une chanson populaire simple, hein, prisonnier de l'inutile. Voilà, donc que sont les liens qui nous lient? Quels sont les liens qui nous attachent? En quoi sommes-nous prisonniers de l'inutile et qu'est-ce que pour nous l'inutile? Qu'est-ce qui fait masse? Qu'est-ce qui fait poids? Sans pour autant avoir un vrai poids, une vraie réalité, mais pour autant qu'on conçoive cette réalité comme étant lourde, elle l'est. Parce que c'est ça qui va faire écran et rendre impossible la vision de l'esprit en lui-même et par lui-même. Alors j'utilise dans nos discussions là un samedi, quelqu'un m'a fait remarquer que j'utilisais l'esprit se connaît en lui-même et par lui-même pour montrer que ce n'était pas une vision dualiste et que c'est l'esprit qui se reconnaissait son essence profonde, sa nature en lui-même et par lui-même. Et quelqu'un m'a dit, ah oui, mais Trinley Rinpoche, il utilise le mot, qu'est-ce que c'était? Direct et intransitif. Direct et intransitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange entre un sujet et un objet. Donc, c'est une autre façon de le dire. Mais, parce que ce n'est pas simple à ne pas saisir cette idée de voir que l'esprit se reconnaît en lui-même et par lui-même. Parce que toute notre système de perception est dualiste. D'ailleurs, le mot conscience, conscience visuelle, mentale, etc., aussi bien en tibétain qu'en sanskrit, hein, namparshepa ou dijnana, aussi bien en tibétain qu'en sanskrit, dit littéralement, c'est l'expérience d'un sujet tendu vers un objet. Donc, c'est dans le mot. Quand on dit la conscience visuelle, c'est forcément dualiste. Donc, il est difficile d'avoir une expérience de l'esprit en lui-même, intransitif, par lui-même, direct, et surtout, encore plus difficile de comprendre intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire. Je vous rassure, n'essayez pas. N'essayez pas. C'est simplement une indication. C'est une indication qu'à un certain moment, lorsque l'esprit est vraiment détendu, que les expériences de bien-être physique et mental s'installent, que la précision de l'esprit n'est pas voilée par quoi que ce soit, que les principes ou les mouvements conceptuels s'élèvent, mais se dissolvent et parfois disparaissent, on est dans un état de absolue lucidité, limpidité. Et là, on commence à voir effectivement que s'élève un sujet qui est relié à un objet qu'il perçoit, mais on voit qu'en fait, il n'y a pas de fossé entre les deux. C'est le goût, on a le goût de ça, on a l'expérience de ça. Et on s'installe de plus en plus dans cette expérience. Comment est-ce que l'on fait ça? On lui laisse de la place. On laisse cette expérience être, avoir la place pour pouvoir s'élever. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut que quelque part, on ait un petit peu travaillé sur les liens qui nous attachent. Parce que sinon, ils vont nous tirer vers « Ah, ça y est, j'ai une expérience. Je vais pouvoir faire un rapport et envoyer ça au maître qui n'attend que ça, que je fasse un rapport sur mon expérience. » Ou simplement on est content. Yes, j'ai réussi. Hein? Et en fait, quand on fait yes, j'ai réussi, on a percé la petite bulle et on l'a perdu. Donc panique. Donc c'est important cette réflexion sur les liens qui nous attachent et qui nous font souffrir, qui sont inutiles. Parce que ça, c'est la base vraiment de la qu'on pourrait appeler la renonciation. Et là aussi, c'est un mot piégé qui est très lourd. Hein, quand on dit renonciation, on se voit vivre dans une grotte humide à manger un pain, un bout de pain moisi. Hein, c'est un peu ça. La renonciation, en gros, c'est se priver de tout ce qui nous fait plaisir. Et la seule récompense, c'est que peut-être on va être un saint. C'est même pas sûr. Donc, la renonciation, en fait, dans le tibétain, il y a plusieurs mots. On peut dire révulsion, c'est-à-dire qu'on en a marre. On en a marre de ces schémas habituels, on en a marre de ces stratégies habituelles. Comme tu disais, on en a vraiment marre. Et il faut en avoir marre pour pouvoir commencer à se poser la question et arrêter de négocier combien je gagne, combien je perds. J'en ai un peu marre, mais je gagne plus que j'en ai marre. Donc, il faut vraiment aller au fond du problème et se dire, j'en ai marre de ça. Et avec une petite pointe d'humour, comme c'est aussi, parce que sinon, on risque d'être très, très, sévère avec soi-même, en disant, encore, tu nous ramènes là. Un peu comme Laurel et Hardy, vous savez, où il y a toujours un qui dit, ah, tu nous as foutu dans un sacré pétrin. Tu vois. Et donc, c'est pas la peine de s'engueuler, mais de dire vraiment, t'es encore là, tu fais encore ça, vraiment. On n'a pas marre. Bah oui, j'en ai marre. Bon, bah alors on fait autre chose, on change. Bon, d'accord, comment on fait? Ah bah attends, regarde. Là, on commence à voir d'autres pistes. On sort un petit peu de la boucle. Des petits moments, 30 secondes, puis après on retrouve. J'ai lu un article, un extrait d'un enseignement de Trungpa Rinpoche que j'ai trouvé vraiment très intéressant et que maintenant désespérément j'essaye de retrouver mais je ne le retrouve plus. Donc j'ai que ma mémoire. Et il parlait de l'esprit, la structure de l'esprit avide, hein, comme les esprits avides, les six classes d'êtres, etc. Et il explique ça comme le désir de vouloir, de posséder. On voit quelque chose, on veut le manger, on veut le toucher, on veut l'avoir. Et en fait, on n'est jamais satisfait parce que c'est jamais assez. On ne sait pas en jouir durablement. Hein, c'est un peu comme un chewing-gum. Ça sent la fraise un peu et au bout de 5 minutes, c'est un bout de plastique. Il faut cracher et on en mange un autre. Et ça, c'est l'esprit avide. Comme c'est une expérience que moi je fais assez souvent, puisque j'ai cette tendance-là de voir les choses, me dire c'est bien ça, oh ça c'est bien, oh ça c'est bien. Une fois, je faisais mon jardin derrière dans le monastère, la petite bout de terrain que j'avais à l'arrière de mon monastère, et j'ai ramené, je ne sais pas, 200 brouettes de granulats pour faire un jardin zen avec des rochers. Et Gyanrin Rinpoche, il me voit, il fait de Sony, t'es attaché à tout, même les cailloux. Et c'est vrai. Et donc, c'est pas en prétendant que je suis pas attaché à tout ou que j'ai pas cet appétit pour tout que je vais m'en sortir ou m'en libérer. C'est plutôt en le regardant. Et c'est vrai que maintenant, je ne vois que ça. Je vois plus l'objet, je vois plus l'appétence, je vois que l'habitude. Et j'en ai marre. Donc, par moments, ça se lâche. Par moments, ça se lâche. Donc, voilà, c'est pas glorieux, c'est pas voilà, c'est juste regarder ce qui est et avoir de la distance par rapport à ça et en même temps être au contact et puis relâcher, relâcher, relâcher. Donc en voyant l'inutile, parce que tout ça c'est pas ce que je recherche profondément. Je sais où je vais. Je vais là où je suis. Mais il y a plein de choses qui me détournent de cette expérience. Donc, il faut relâcher, il faut laisser être. Laisser être, laisser être. Ce n'est pas une faillite. Pas une faillite, c'est un apprentissage. Bien, ben, voilà ce que je voulais vous proposer pour commencer. Merci à vous. Merci à vous en ligne. Et puis, on se retrouve demain pour continuer. Alors, réfléchissez sur ça. Prisonnier de l'inutile, les liens qui nous attachent et qui nous font souffrir. Et comment on peut dépasser ça pour avoir la liberté de regarder notre esprit. C'est le questionnement de base. Si on n'a pas cultivé les jambes de la méditation, dans la prière de Vajradhara, la renonciation, j'ai dit révulsion, on en a marre, mais aussi on pourrait dire Ngejung, c'est-à-dire l'avènement d'une certitude, L'avènement d'une certitude. Il y a quelque chose qui dit en nous, ça va, assez. Je ne veux plus nourrir ça. Donc là, on commence à entrer sur la voie. Avant ça, on peut en parler, mais on n'est pas entré sur la voie, tant qu'on n'a pas fait ça. Le Bouddha l'a enseigné au travers des quatre nobles vérités. La première, c'est la prise de conscience de la souffrance, du mode d'être conditionné. Si on n'a pas cette conscience aiguë, tout le reste du processus, la recherche de la source, la possibilité d'une libération et la méthodologie libératrice, c'est de la littérature. C'est de la littérature. Donc il faut commencer par le début. Voilà, donc on a commencé par le début. Les liens qui nous attachent et qui nous font souffrir, et comment, en quelle manière nous sommes prisonniers de l'inutile. Voilà, donc. Merci à Francis Cabret et à la radio et à la voiture, etc. etc. Voilà. Bien. Alors, pour conclure, partageons les qualités de ce soir. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissions-nous les établir. Par ses bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ce qui erre, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi en ligne. À demain, si vous le voulez bien.
Merci Lama.
Merci Lama. Bonsoir à tous.
Merci Lama.
Au revoir.
Merci.
Il y a un certain nombre de gens que je ne connais que via